Lettre 20, la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Ah, fripon, vous me cajolez, de peur que je ne me moque de vous. Allons, je vous fais grâce, vous m'écrivez tant de folies qu'il faut bien que je vous pardonne la sagesse où vous tient votre présidente. Je ne crois pas que mon chevalier eût autant d'indulgence que moi. Il serait homme à ne pas approuver notre renouvellement de bail et à ne rien trouver de plaisant dans votre folle idée. J'en ai pourtant bien ri, et j'étais vraiment fâchée d'être obligée d'en rire toute seule. Si vous eussiez été là, je ne sais où m'aurait mené tant de gaieté. Mais j'ai eu le temps de la réflexion, et je me suis armée de sévérité. Ce n'est pas que je refuse pour toujours, mais je diffère, et j'ai raison. J'y mettrai peut-être de la vanité, et une fois piquée au jeu, on ne sait plus où l'on s'arrête. Je serai femme à vous enchaîner de nouveau, à vous faire oublier votre présidente. Et si j'allais, moi, indigne, vous dégoûter de la vertu, voyez quel scandale! Pour éviter ce danger, voici mes conditions. Aussitôt que vous aurez eu votre belle dévote, que vous pourrez m'en fournir une preuve, venez, et je suis à vous. Mais vous n'ignorez pas que dans les affaires importantes, on ne reçoit de preuves que par écrit. Par cet arrangement, d'une part, je deviendrai une récompense au lieu d'être une consolation. Et cette idée me plaît davantage. De l'autre, votre succès en sera plus piquant, en devenant lui-même un moyen d'infidélité. Venez donc, venez au plus tôt m'apporter le gage de votre triomphe. Semblable à nos preux chevaliers qui venaient déposer aux pieds de leurs dames les fruits brillants de leur victoire. Sérieusement. Je suis curieuse de savoir ce que peut écrire une prude après un tel moment, et quelle voile elle met sur ses discours après n'en avoir plus laissé sur sa personne. C'est à vous de voir si je me mets à un prix trop haut, mais je vous préviens qu'il n'y a rien à rabattre. Jusque-là, mon cher vicomte, vous trouverez bon que je reste fidèle à mon chevalier et que je m'amuse à le rendre heureux, malgré le petit chagrin que cela vous cause. Cependant, si j'avais moins de mœurs, je crois qu'il aurait dans ce moment un rival dangereux. C'est la petite Volange. Je raffole de cet enfant. C'est une vraie passion. Ou je me trompe, ou elle deviendra une de nos femmes les plus à la mode. Je vois son petit cœur se développer, et c'est un spectacle ravissant. Elle aime déjà son Danceny avec fureur, mais elle n'en sait encore rien. Lui-même, quoique très amoureux, a encore la timidité de son âge et n'ose pas trop le lui apprendre. Tous deux sont en adoration vis-à-vis de moi. La petite surtout a grande envie de me dire son secret. Particulièrement depuis quelques jours, je l'en vois vraiment oppressée et je lui aurais rendu un grand service de l'aider un peu. Mais je n'oublie pas que c'est un enfant et je ne veux pas me compromettre. Danceny m'a parlé un peu plus clairement. Mais pour lui, mon parti est pris, je ne veux pas l'entendre. Quant à la petite, je suis souvent tentée d'en faire mon élève. C'est un service que j'ai envie de rendre à Gercourt. Il me laisse du temps puisque le voilà en Corse jusqu'au mois d'octobre. J'ai dans l'idée que j'emploierai ce temps-là et que nous lui donnerons une femme toute formée au lieu de son innocente pensionnaire. Quelle est donc en effet l'insolente sécurité de cet homme qui ose dormir tranquille, tandis qu'une femme qui a à se plaindre de lui ne s'est pas encore vengée. Tenez, si la petite était ici dans ce moment, je ne sais ce que je ne lui dirais pas. Adieu, vicomte. Bonsoir et bon succès. Mais pour Dieu, avancez donc. Songez que si vous n'avez pas cette femme, les autres rougiront de vous avoir eu. De ce 20 août 1700. Lettre 21, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Enfin, ma belle amie, j'ai fait un pas en avant, mais un grand pas, et qui, s'il ne m'a pas conduit jusqu'au bout, m'a fait connaître au moins que je suis dans la route, et a dissipé la crainte où j'étais de m'être égarée. J'ai enfin déclaré mon amour. Et quoiqu'on ait gardé le silence le plus obstiné, j'ai obtenu la réponse peut-être la moins équivoque et la plus flatteuse. Mais n'anticipons pas sur les événements et reprenons plus haut. Vous vous souvenez qu'on faisait épier mes démarches. Eh bien, j'ai voulu que ce moyen scandaleux tournât à l'édification publique. Et voici ce que j'ai fait. J'ai chargé mon confident de me trouver, dans les environs, quelque malheureux qui eut besoin de secours. Cette commission n'était pas difficile à remplir. Hier après-midi, il me rendit compte qu'on devait saisir aujourd'hui, dans la matinée, les meubles d'une famille entière qui ne pouvait payer la taille. Je m'assurai qu'il n'y eut dans cette maison aucune fille ou femme dont l'âge ou la figure puisse rendre mon action suspecte. Et quand je fus bien informée, je déclarai à souper mon projet d'aller à la chasse le lendemain. Ici, je dois rendre justice à ma présidente. Sans doute elle eut quelques remords des ordres qu'elle avait donnés, et n'ayant pas la force de vaincre sa curiosité, elle eut au moins celle de contrarier mon désir. Il devait faire une chaleur excessive, je risquais de me rendre malade, je ne tuerais rien et me fatiguerais en vain. Et pendant ce dialogue, ses yeux, qui parlaient peut-être mieux qu'elle ne le voulait, me faisaient assez connaître qu'elle désirait que je prisse pour bonne ses mauvaises raisons. Je n'avais garde de m'y rendre, comme vous pouvez croire, et je résistais même à une petite diatribe contre la chasse et les chasseurs, et à un petit nuage d'humeur qui obscurcit toute la soirée cette figure céleste. Je craignis un moment que ses ordres ne fussent révoqués, et que sa délicatesse ne me nuisît. Je ne calculais pas la curiosité d'une femme. Aussi me trompais-je. Mon chasseur me rassura dès le soir même, et je me couchai satisfait. Au point du jour, je me lève et je pars. À peine à 50 pas du château, j'aperçois mon espion qui me suit. J'entre en chasse et marche à travers champs vers le village où je voulais me rendre, sans autre plaisir dans ma route que de faire courir le drôle qui me suivait et qui, n'osant pas quitter les chemins, parcourait souvent à toute course un espace triple du mien. À force de l'exercer, j'ai eu moi-même une extrême chaleur et je me suis assis au pied d'un arbre. N'a-t-il pas eu l'insolence de se couler derrière un buisson qui n'était pas à 20 pas de moi, et de s'y asseoir aussi? J'ai été tenté un moment de lui envoyer mon coup de fusil, qui, quoique de petit plomb seulement, lui aurait donné une leçon suffisante sur les dangers de la curiosité. Heureusement pour lui, je me suis ressouvenu qu'il était utile et même nécessaire à mes projets. Cette réflexion l'a sauvé. Cependant, j'arrive au village. Je vois de la rumeur. Je m'avance, j'interroge, on me raconte le fait. Je fais venir le collecteur, et cédant à ma généreuse compassion, je paie noblement 56 livres pour lesquels on réduisait 5 personnes à la paille et au désespoir. Après cette action si simple, vous n'imaginez pas quel cœur de bénédiction retentit autour de moi de la part des assistants. Quelles larmes de reconnaissance coulaient des yeux du vieux chef de cette famille et embellissait cette figure de patriarche qu'un moment auparavant l'empreinte farouche du désespoir rendait vraiment hideuse. J'examinais ce spectacle lorsqu'un autre paysan, plus jeune, conduisant par la main une femme et 2 enfants, et s'avançant vers moi à pas précipités, leur dit « Tombons tous aux pieds de cette image de Dieu !» Et dans le même instant, j'ai été entouré de cette famille prosternée à mes genoux. J'avouerai ma faiblesse. Mes yeux se sont mouillés de larmes, et j'ai senti en moi un mouvement involontaire, mais délicieux. J'ai été étonné du plaisir qu'on éprouve en faisant le bien, et je serais tenté de croire que ce que nous appelons les gens vertueux n'ont pas tant de mérite qu'on se plaît à nous le dire. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé juste de payer à ces pauvres gens le plaisir qu'ils venaient de me faire. J'avais pris 10 louis sur moi, je les leur ai donnés. Ici ont recommencé les remerciements. Mais ils n'avaient plus ce même degré de pathétique. Le nécessaire avait produit le grand, le véritable effet. Le reste n'était qu'une simple expression de reconnaissance et d'étonnement pour des dons superflus. Cependant, au milieu des bénédictions bavardes de cette famille, je ne ressemblais pas mal au héros d'un drame, dans la scène du dénouement. Vous remarquerez que dans cette foule était surtout le fidèle espion. Mon but était rempli. Je me dégageai de tous et regagnai le château. Tout calculé, je me félicite de mon invention. Cette femme vaut bien sans doute que je me donne tant de soins. Ils seront un jour mes titres auprès d'elle. Et l'ayant en quelque sorte ainsi payé d'avance, j'aurai le droit d'en disposer à ma fantaisie, sans avoir de reproches à me faire. J'oubliais de vous dire que pour mettre tout à profit, j'ai demandé à ces bonnes gens de prier Dieu pour le succès de mes projets. Vous allez voir si déjà leurs prières n'ont pas été en partie exaucées. mais on m'avertit que le souper est servi, et il serait trop tard pour que cette lettre partît si je ne la fermais qu'en me retirant. Ainsi, le reste à l'ordinaire prochain. J'en suis fâchée, car le reste est le meilleur. Adieu, ma belle amie. Vous me volez un moment du plaisir de la voir. De ce 20 août 1700. Lettre 22, la présidente de Tourvel à Madame de Volanges. Vous serez sans doute bien aise, madame, de connaître un trait de Monsieur de Valmont qui contraste beaucoup, ce me semble, avec tous ceux sous lesquels on vous l'a représenté. Il est si pénible de penser désavantageusement de qui que ce soit, si fâcheux de ne trouver que des vices chez ceux qui auraient toutes les qualités nécessaires pour faire aimer la vertu. Enfin, vous aimez tant à user d'indulgence que c'est vous obliger que de vous donner des motifs de revenir sur un jugement trop rigoureux. Monsieur de Valmont me paraît fondé à espérer cette faveur, je dirais presque, cette justice. Et voici sur quoi je le pense. Il a fait ce matin une de ses courses qui pouvait faire supposer quelque projet de sa part dans les environs, comme l'idée vous en était venue. Idée que je m'accuse d'avoir saisie peut-être avec trop de vivacité. Heureusement pour lui, et surtout heureusement pour nous, puisque cela nous sauve d'être injustes, un de mes gens devait aller du même côté que lui. Et c'est par là que ma curiosité répréhensible, mais heureuse, a été satisfaite. Il nous a rapporté que Monsieur de Valmont, ayant trouvé au village de une malheureuse famille dont on vendait les meubles, faute d'avoir pu payer les impositions, non seulement s'était empressé d'acquitter la dette de ces pauvres gens, mais même leur avait donné une somme d'argent assez considérable. Mon domestique a été témoin de cette vertueuse action, et il m'a rapporté de plus que les paysans, causant entre eux et avec lui, avaient dit qu'un domestique qu'ils ont désigné, et que le mien croit être celui de Monsieur de Valmont, avait pris hier des informations sur ceux des habitants du village qui pouvaient avoir besoin de secours. Si cela est ainsi, ce n'est même plus seulement une compassion passagère et que l'occasion détermine. C'est le projet formé de faire du bien, c'est la sollicitude de la bienfaisance, c'est la plus belle vertu des plus belles âmes. Mais, soit hasard ou projet, c'est toujours une action honnête et louable, et dont le seul récit m'a attendri jusqu'aux larmes. J'ajouterai de plus, et toujours par justice, que quand je lui ai parlé de cette action, de laquelle il ne disait mot, il a commencé par s'en défendre, et il a eu l'air d'y mettre si peu de valeur lorsqu'il en est convenu, que sa modestie en doublait le mérite. À présent, dites-moi, ma respectable amie, si Monsieur de Valmont est en effet un libertin sans retour, s'il n'est que cela et se conduit ainsi, que restera-t-il aux gens honnêtes? Quoi? Les méchants partageraient-ils avec les bons le plaisir sacré de la bienfaisance? Dieu permettrait-il qu'une famille vertueuse reçue, de la main d'un scélérat, des secours dont elle rendrait grâce à la divine providence? Et pourrait-il se plaire à entendre des bouches pures répandre leurs bénédictions sur un réprouvé? Non. J'aime mieux croire que des erreurs, pour être longues, ne sont pas éternelles. Et je ne puis penser que celui qui fait du bien soit l'ennemi de la vertu. Monsieur de Valmont n'est peut-être qu'un exemple de plus du danger des liaisons. Je m'arrête à cette idée qui me plaît. Si d'une part elle peut servir à le justifier dans votre esprit, de l'autre, elle me rend de plus en plus précieuse l'amitié tendre qui m'unit à vous, pour la vie. J'ai l'honneur d'être, etc. Postscriptum. Madame de Rosemonde et moi nous allons, dans l'instant, voir aussi l'honnête et malheureuse famille et joindre nos secours tardifs à ceux de Monsieur de Valmont. Nous le mènerons avec nous. Nous donnerons au moins à ces bonnes gens le plaisir de revoir leurs bienfaiteurs. C'est, je crois, tout ce qu'il nous a laissé à faire. De ce 20 août 1700. Lettre 23, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Nous en sommes restés à mon retour au château. Je reprends mon récit. Je n'eus que le temps de faire une courte toilette et je me rendis au salon, où ma belle faisait de la tapisserie, tandis que le curé du lieu lisait la gazette à ma vieille tante. J'allai m'asseoir près du métier. Des regards, plus doux encore que de coutume et presque caressants, me firent bientôt deviner que le domestique avait déjà rendu compte de sa mission. En effet, Mon aimable curieuse ne put garder plus longtemps le secret qu'elle m'avait dérobé. Et sans craindre d'interrompre un vénérable pasteur, dont le débit ressemblait pourtant à celui d'un prône, « J'ai bien aussi ma nouvelle à débiter, » dit-elle. Et tout de suite, elle raconta mon aventure, avec une exactitude qui faisait honneur à l'intelligence de son historien. Vous jugez comme je déployais toute ma modestie, mais qui pourrait arrêter une femme qui fait, sans s'en douter, l'éloge de ce qu'elle aime. Je pris donc le parti de la laisser aller. On eût dit qu'elle prêchait le panégyrique d'un saint. Pendant ce temps, j'observais, non sans espoir, tout ce que promettait à l'amour son regard animé, son geste devenu plus libre, et surtout ce son de voix qui, par son altération déjà sensible, trahissait l'émotion de son âme. À peine elle finissait de parler. « Venez, mon neveu, » me dit madame de Rosemonde, « venez que je vous embrasse. » Je sentis aussitôt que la jolie prêcheuse ne pourrait se défendre d'être embrassée à son tour. Cependant, elle voulut fuir, mais elle fut bientôt dans mes bras. Et, loin d'avoir la force de résister, à peine lui restait-il celle de se soutenir. Plus j'observe cette femme, et plus elle me paraît désirable. Elle s'empressa de retourner à son métier, et eut l'air, pour tout le monde, de recommencer sa tapisserie. Mais moi, je m'aperçus bien que sa main tremblante ne lui permettait pas de continuer son ouvrage. Après le dîner, les dames voulurent aller voir les infortunés que j'avais si pieusement secourus. Je les accompagnai. Je vous sauve l'ennui de cette seconde scène de reconnaissance et d'éloge. Mon cœur, pressé d'un souvenir délicieux, hâte le moment du retour au château. Pendant la route, ma belle présidente, plus rêveuse qu'à l'ordinaire, ne disait pas un mot. Tout occupée de trouver les moyens de profiter de l'effet qu'avait produit l'événement du jour, je gardais le même silence. Madame de Rosemonde seule parlait et n'obtenait de nous que des réponses courtes et rares. Nous dûmes l'ennuyer. J'en avais le projet et il réussit. Aussi, en descendant de voiture, elle passa dans son appartement et nous laissa tête à tête, ma belle et moi, dans un salon mal éclairé. Obscurité douce qui enhardit l'amour timide. Je n'eus pas la peine de diriger la conversation où je voulais la conduire. La ferveur de l'aimable prêcheuse me servit mieux que n'aurait pu faire mon adresse. « Quand on est si digne de faire le bien, » me dit-elle, en arrêtant sur moi son doux regard, « comment passe-t-on sa vie à mal faire ?»« Je ne mérite, » lui répondis-je, « ni cet éloge, ni cette censure. Et je ne conçois pas qu'avec autant d'esprit que vous en avez, vous ne m'ayez pas encore deviné. Dû ma confiance me nuire auprès de vous, vous en êtes trop digne pour qu'il me soit possible de vous la refuser. Vous trouverez la clé de ma conduite dans un caractère malheureusement trop facile. Entouré de gens sans mœurs, j'ai imité leurs vices. J'ai peut-être mis de l'amour-propre à les surpasser. Séduit de même ici par l'exemple des vertus, sans espérer de vous atteindre, j'ai au moins essayé de vous suivre. Et peut-être l'action dont vous me louez aujourd'hui perdrait-elle tout son prix à vos yeux, si vous en connaissiez le véritable motif. Vous voyez, ma belle amie, combien j'étais près de la vérité. Ce n'est pas à moi, continuai-je, que ces malheureux ont dû mes secours. Ou vous croyez voir une action louable, je ne cherchais qu'un moyen de plaire. Je n'étais, puisqu'il faut le dire, que le faible agent de la divinité que j'adore. Ici, elle voulut m'interrompre, mais je ne lui en donnais pas le temps. « Dans ce moment même, ajoutai-je, mon secret ne m'échappe que par faiblesse. Je m'étais promis de vous le taire. Je me faisais un bonheur de rendre à vos vertus, comme à vos appas, un hommage pur que vous ignoreriez toujours. Mais, incapable de tromper, quand j'ai sous les yeux l'exemple de la candeur, je n'aurai point à me reprocher avec vous une dissimulation coupable. Ne croyez pas que je vous outrage par une criminelle espérance. Je serai malheureux, je le sais. Mais mes souffrances me seront chères. Elles me prouveront l'excès de mon amour. C'est à vos pieds, c'est dans votre sein que je déposerai mes peines. J'épuiserai des forces pour souffrir de nouveau. j'y trouverai la bonté compatissante, et je me croirai consolée, parce que vous m'aurez pu. Oh, vous que j'adore, écoutez-moi, plaignez-moi, secourez-moi. Cependant, j'étais à ses genoux, et je serrai ses mains dans les miennes. Mais elle, les dégageant tout à coup, et les croisant sur ses yeux avec l'expression du désespoir, « Ah, malheureuse !» s'écria-t-elle, puis elle fondit en larmes. Par bonheur, je m'étais livrée à tel point que je pleurais aussi, et reprenant ses mains, je les baignais de pleurs. Cette précaution était bien nécessaire, car elle était si occupée de sa douleur qu'elle ne se serait pas aperçue de la mienne si je n'avais pas trouvé ce moyen de l'en avertir. J'y gagnais de plus de considérer à loisir cette charmante figure, embellie encore par l'attrait puissant des larmes. Ma tête s'échauffait, et j'étais si peu maître de moi que je fus tenté de profiter de ce moment. Quelle est donc notre faiblesse? Quel est l'empire des circonstances? Si moi-même, oubliant mes projets, j'ai risqué de perdre par un triomphe prématuré le charme des longs combats et les détails d'une pénible défaite. Si séduit par un désir de jeune homme, j'ai pensé exposer le vainqueur de Madame de Tourvel à ne recueillir pour fruit de ses travaux que l'insipide avantage d'avoir eu une femme de plus. Ah, qu'elle se rende, mais qu'elle combatte. Que, sans avoir la force de vaincre, elle ait celle de résister. Qu'elle savoure à loisir le sentiment de sa faiblesse et soit contrainte d'avouer sa défaite. Laissons le braconnier obscur tuer à l'affût le cerf qui l'a surpris. Le vrai chasseur doit le forcer. Ce projet est sublime, n'est-ce pas? Mais peut-être serais-je à présent au regret de ne pas l'avoir suivi, si le hasard ne fût venu au secours de ma prudence. Nous entendîmes du bruit. On venait au salon. Madame de Tourvel, effrayée, se leva précipitamment, se saisit d'un des flambeaux et sortit. Il fallut bien la laisser faire. Ce n'était qu'un domestique. Aussitôt que j'en fus assurée, je la suivis. À peine eus-je fait quelques pas, que soit qu'elle me reconnut, soit un sentiment vague d'effroi, je l'entendis précipiter sa marche et se jeter plutôt qu'entrer dans son appartement, dont elle ferma la porte sur elle. J'y allai, mais la clé était en dedans. Je me gardai bien de frapper, c'eût été lui fournir l'occasion d'une résistance trop facile. J'eus l'heureuse et simple idée de tenter de voir à travers la serrure, et je vis en effet cette femme adorable à genoux, baignée de larmes et priant avec ferveur. Quel Dieu osait-elle invoquer? En est-il d'assez puissant contre l'amour? En vain cherche-t-elle à présent des secours étrangers? C'est moi qui réglerai son sort. Croyant en avoir assez fait pour un jour, je me retirai aussi dans mon appartement et me mis à vous écrire. J'espérais la revoir au souper, mais elle fit dire qu'elle s'était trouvée indisposée et s'était mise au lit. Madame de Rosemonde voulut monter chez elle, mais la malicieuse malade prétexta un mal de tête qui ne lui permettait de voir personne. Vous jugez qu'après le souper, la veillée fut courte et que j'eus aussi mon mal de tête. Retirée chez moi, j'écrivis une longue lettre pour me plaindre de cette rigueur, et je me couchai avec le projet de la remettre ce matin. J'ai mal dormi, comme vous pouvez voir par la date de cette lettre. Je me suis levée et j'ai relu mon épître. Je me suis aperçue que je ne m'y étais pas assez observée, que j'y montrais plus d'ardeur que d'amour et plus d'humeur que de tristesse. Il faudra la refaire, mais il faudrait être plus calme. J'aperçois le point du jour, et j'espère que la fraîcheur qui l'accompagne m'amènera le sommeil. Je vais me remettre au lit, et quel que soit l'empire de cette femme, je vous promets de ne pas m'occuper tellement d'elle qu'il ne me reste le temps de songer beaucoup à vous. Adieu, ma belle amie. De ce 21 août 1700, 4 heures du matin. Lettre 24. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Ah, par pitié, madame, daignez calmer le trouble de mon âme, daignez m'apprendre ce que je dois espérer ou craindre. Placée entre l'excès du bonheur et celui de l'infortune, l'incertitude est un tourment cruel. Pourquoi vous ai-je parlé? que n'ai-je pu résister au charme impérieux qui vous livrait mes pensées. Content de vous adorer en silence, je jouissais au moins de mon amour. Et ce sentiment pur, que ne troublait point alors l'image de votre douleur, suffisait à ma félicité. Mais cette source de bonheur en est devenue une de désespoir, depuis que j'ai vu couler vos larmes, depuis que j'ai entendu ce cruel « Ah, malheureuse !» Madame, ces deux mots retentiront longtemps dans mon cœur. Par quelle fatalité le plus doux des sentiments ne peut-il vous inspirer que l'effroi? Quelle est donc cette crainte? Ah, ce n'est pas celle de le partager. Votre cœur que j'ai mal connu n'est pas fait pour l'amour. Le mien, que vous calomniez sans cesse, est le seul qui soit sensible. Le vôtre est même sans pitié. S'il n'en était pas ainsi, vous n'auriez pas refusé un mot de consolation au malheureux qui vous racontait ses souffrances. Vous ne vous seriez pas soustraite à ses regards quand il n'a d'autre plaisir que celui de vous voir. Vous ne vous seriez pas fait un jeu cruel de son inquiétude en lui faisant annoncer que vous étiez malade sans lui permettre d'aller s'informer de votre état. Vous auriez senti que cette même nuit, qui n'était pour vous que 12 heures de repos, allait être pour lui un siècle de douleur. Par où, dites-moi, ai-je mérité cette rigueur désolante? Je ne crains pas de vous prendre pour juge. Qu'ai-je donc fait? Que céder à un sentiment involontaire, inspiré par la beauté et justifié par la vertu, toujours contenu par le respect, et dont l'innocent aveu fut l'effet de la confiance et non de l'espoir. La trahirez-vous cette confiance que vous-même avez semblé me permettre et à laquelle je me suis livrée sans réserve? Non, je ne puis le croire. Ce serait vous supposer un tort, et mon cœur se révolte à la seule idée de vous en trouver un. Je désavoue mes reproches. J'ai pu les écrire, mais non pas les penser. Ah, laissez-moi vous croire parfaite, c'est le seul plaisir qui me reste. Prouvez-moi que vous l'êtes en m'accordant vos soins généreux. Quel malheureux avez-vous secouru qui en eut autant de besoin que moi? Ne m'abandonnez pas dans le délire où vous m'avez plongé. Prêtez-moi votre raison, puisque vous avez ravi la mienne. Après m'avoir corrigé, éclairez-moi pour finir votre ouvrage. Je ne veux pas vous tromper. Vous ne parviendrez point à vaincre mon amour. Mais vous m'apprendrez à le régler. En guidant mes démarches, en dictant mes discours, vous me sauverez au moins du malheur affreux de vous déplaire. Dissipez surtout cette crainte désespérante. Dites-moi que vous me pardonnez, que vous me plaignez. Assurez-moi de votre indulgence. Vous n'aurez jamais toute celle que je vous désirerai, mais je réclame celle dont j'ai besoin. Me la refuserez-vous? Adieu, madame. Recevez avec bonté l'hommage de mes sentiments. Il ne nuit point à celui de mon respect. De ce 20 août 1700. Lettre 25, le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Voici le bulletin d'hier. À 11 heures, j'entrai chez madame de Rosemonde, et sous ses auspices, je fus introduit chez la feinte malade qui était encore couchée. Elle avait les yeux très battus. J'espère qu'elle avait aussi mal dormi que moi. Je saisis un moment, où madame de Rosemonde s'était éloignée, pour remettre ma lettre. On refusa de la prendre. Mais je la laissai sur le lit et allai bien honnêtement approcher le fauteuil de ma vieille tante qui voulait être près de son cher enfant. Il fallut bien serrer la lettre pour éviter le scandale. La malade dit maladroitement qu'elle croyait avoir un peu de fièvre. Madame de Rosemonde m'engagea à lui tâter le pouls en vantant beaucoup mes connaissances en médecine. Ma belle eut donc le double chagrin d'être obligée de me livrer son bras et de sentir que son petit mensonge allait être découvert. En effet, je pris sa main que je serrai dans une des miennes, pendant que de l'autre je parcourais son bras frais et potelé. La malicieuse personne ne répondit à rien, ce qui me fit dire en me retirant, « Il n'y a pas même la plus légère émotion. » Je me doutais que ses regards devaient être sévères, et pour la punir, je ne les cherchais pas. Un moment après, elle dit qu'elle voulait se lever, et nous la laissâmes seule. Elle parut au dîner, qui fut triste. Elle annonça qu'elle n'irait pas se promener, ce qui était me dire que je n'aurais pas occasion de lui parler. Je sentis bien qu'il fallait placer là un soupir et un regard douloureux. Sans doute elle s'y attendait, car ce fut le seul moment de la journée où je parvins à rencontrer ses yeux. Toute sage qu'elle est, elle a ses petites ruses, comme une autre. Je trouvai le moyen de lui demander si elle avait eu la bonté de m'instruire de mon sort, et je fus un peu étonné de l'entendre me répondre « Oui, monsieur, je vous ai écrit. » J'étais fort empressée d'avoir cette lettre, mais soit ruse encore ou maladresse ou timidité, elle ne me l'a remis que le soir, au moment de se retirer chez elle. Je vous l'envoie, ainsi que le brouillon de la mienne. Lisez et jugez. Voyez avec quelle insigne fausseté elle affirme qu'elle n'a point d'amour, quand je suis sûre du contraire. Et puis elle se plaindra si je la trompe après, quand elle ne craint pas de me tromper avant. Ma belle amie, l'homme le plus adroit ne peut encore que se tenir au niveau de la femme la plus vraie. Il faudra pourtant feindre de croire à tout ce radotage et se fatiguer de désespoir, parce qu'il plaît à madame de jouer la rigueur. Le moyen de ne pas se venger de ces noirceurs-là. Ah, patience. Mais adieu, j'ai encore beaucoup à écrire. À propos, vous me renverrez la lettre de l'inhumaine. Il se pourrait faire que par la suite, elle voulût qu'on mît du prix à ces misères-là, et il faut être en règle. Je ne vous parle pas de la petite Volange, nous en causerons au premier jour. Du château, ce 22 août 1700. Lettre 26, la présidente de Tourvel au vicomte de Valmont. Sûrement, monsieur, vous n'auriez eu aucune lettre de moi si ma sotte conduite d'hier au soir ne me forçait d'entrer aujourd'hui en explication avec vous. Oui, j'ai pleuré, je l'avoue. Peut-être aussi les deux mots que vous me citez avec tant de soin me sont-ils échappés. Larmes et paroles, vous avez tout remarqué, il faut donc vous expliquer tout. Accoutumée à n'inspirer que des sentiments honnêtes, à n'entendre que des discours que je puis écouter sans rougir, à jouir par conséquent d'une sécurité que j'ose dire que je mérite, je ne sais ni dissimuler, ni combattre les impressions que j'éprouve. L'étonnement et l'embarras où m'a jeté votre procédé, je ne sais quelle crainte inspirée par une situation qui n'eût jamais dû être faite pour moi. Peut-être l'idée révoltante de me voir confondue avec les femmes que vous méprisez et traitée aussi légèrement qu'elles. Toutes ces causes réunies ont provoqué mes larmes et ont pu me faire dire, avec raison, je crois, que j'étais malheureuse. Cette expression que vous trouvez si forte serait sûrement beaucoup trop faible encore si mes pleurs et mes discours avaient eu un autre motif. Si, au lieu de désapprouver des sentiments qui doivent m'offenser, j'avais pu craindre de les partager. Non, monsieur, je n'ai pas cette crainte. Si je l'avais, je fuirais à 100 lieues de vous. J'irais pleurer dans un désert le malheur de vous avoir connu. Peut-être même, malgré la certitude où je suis de ne point vous aimer, de ne vous aimer jamais, peut-être aurais-je mieux fait de suivre les conseils de mes amis, de ne pas vous laisser approcher de moi. J'ai cru, et c'est là mon seul tort, j'ai cru que vous respecteriez une femme honnête, qui ne demandait pas mieux que de vous trouver telle et de vous rendre justice, qui déjà vous défendait, tandis que vous l'outragiez par vos vœux criminels. Vous ne me connaissez pas. Non, monsieur, vous ne me connaissez pas. Sans cela, vous n'auriez pas cru vous faire un droit de vos torts. Parce que vous m'avez tenu des discours que je ne devais pas entendre, vous ne vous seriez pas cru autorisé à m'écrire une lettre que je ne devais pas lire. Et vous me demandez de guider vos démarches, de dicter vos discours. Eh bien, monsieur, le silence et l'oubli. Voilà les conseils qu'il me convient de vous donner, comme à vous de les suivre. Alors vous aurez en effet des droits à mon indulgence. Il ne tiendrait qu'à vous d'en obtenir même à ma reconnaissance. Mais non, je ne ferai point une demande à celui qui ne m'a point respecté. Je ne donnerai point une marque de confiance à celui qui a abusé de ma sécurité. Vous me forcez à vous craindre, peut-être à vous haïr. Je ne le voulais pas. Je ne voulais voir en vous que le neveu de ma plus respectable amie. J'opposais la voie de l'amitié à la voie publique qui vous accusait. Vous avez tout détruit. Et je le prévois, vous ne voudrez rien réparer. Je m'en tiens, monsieur, à vous déclarer que vos sentiments m'offensent, que leur aveu m'outrage, et surtout que, loin d'en venir un jour à les partager, vous me forceriez à ne vous revoir jamais, si vous ne vous imposiez sur cet objet un silence qu'il me semble avoir droit d'attendre et même d'exiger de vous. Je joins à cette lettre celle que vous m'avez écrite, et j'espère que vous voudrez bien de même me remettre celle-ci. Je serais vraiment peinée qu'il restât aucune trace d'un événement qui n'eût jamais dû exister. J'ai l'honneur d'être, etc. De ce 21 août 1700. Lettre 27, Cécile Volanges à la marquise de Merteuil. Mon Dieu, que vous êtes bonne, madame! Comme vous avez bien senti qu'il me serait plus facile de vous écrire que de vous parler. Aussi, c'est que ce que j'ai à vous dire est bien difficile. Mais vous êtes mon amie, n'est-il pas vrai? Oh oui, ma bien bonne amie, je vais tâcher de n'avoir pas peur. Et puis, j'ai tant besoin de vous, de vos conseils. J'ai bien du chagrin. Il me semble que tout le monde devine ce que je pense, et surtout quand il est là, je rougis dès qu'on me regarde. Hier, quand vous m'avez vu pleurer, c'est que je voulais vous parler, et puis je ne sais quoi m'en empêcher. Et quand vous m'avez demandé ce que j'avais, mes larmes sont venues malgré moi. Je n'aurais pas pu dire une parole. Sans vous, maman allait s'en apercevoir, et qu'est-ce que je serais devenue? Voilà pourtant comment je passe ma vie, surtout depuis 4 jours. C'est ce jour-là, madame. Oui, je vais vous le dire. C'est ce jour-là que monsieur le chevalier Danceny m'a écrit. Oh, je vous assure que quand j'ai trouvé sa lettre, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais pour ne pas mentir, je ne peux pas vous dire que je n'ai eu bien du plaisir en la lisant. Voyez-vous, j'aimerais mieux avoir du chagrin toute ma vie que s'il ne me l'eût pas écrite. Mais je savais bien que je ne devais pas le lui dire, et je peux bien vous assurer même que je lui ai dit que j'en étais fâchée. Mais il dit que c'était plus fort que lui, et je le crois bien, car j'avais résolu de ne lui pas répondre, et pourtant je n'ai pas pu m'en empêcher. Oh, je ne lui ai écrit qu'une fois, et même c'était en partie pour lui dire de ne plus m'écrire. Mais malgré cela, il m'écrit toujours. Et comme je ne lui réponds pas, je vois bien qu'il est triste. Et ça m'afflige encore davantage, si bien que je ne sais plus que faire, ni que devenir, et que je suis bien à plaindre. Dites-moi, je vous en prie, madame, est-ce que ce serait bien mal de lui répondre de temps en temps? Seulement jusqu'à ce qu'il ait pu prendre sur lui de ne plus m'écrire lui-même, et de rester comme nous étions avant. Car pour moi, si cela continue, je ne sais pas ce que je deviendrai. Tenez, en lisant sa dernière lettre, j'ai pleuré que ça ne finissait pas. Et je suis bien sûre que si je ne lui réponds pas encore, ça nous fera bien de la peine. Je vais vous envoyer sa lettre aussi, ou bien une copie, et vous jugerez. Vous verrez bien que ce n'est rien de mal qu'il demande. Cependant, si vous trouvez que ça ne se doit pas, je vous promets de m'en empêcher. Mais je crois que vous penserez comme moi, que ce n'est pas là du mal. Pendant que j'y suis, madame, permettez-moi de vous faire encore une question. On m'a bien dit que c'était mal d'aimer quelqu'un. Mais pourquoi cela? Ce qui me fait vous le demander, c'est que monsieur le chevalier Danceny prétend que ce n'est pas mal du tout, et que presque tout le monde aime. Si cela était, je ne vois pas pourquoi je serais la seule à m'en empêcher. Ou bien est-ce que ce n'est un mal que pour les demoiselles? Car j'ai entendu maman elle-même dire que madame D aimait monsieur M, et elle n'en parlait pas comme d'une chose qui serait si mal. Et pourtant je suis sûre qu'elle se fâcherait contre moi, si elle se doutait seulement de mon amitié pour monsieur Danceny. Elle me traite toujours comme un enfant, maman, et elle ne me dit rien du tout. Je croyais, quand elle m'a fait sortir du couvent, que c'était pour me marier, mais à présent il semble que non. Ce n'est pas que je m'en soucie, je vous assure, mais vous qui êtes si amie avec elle, vous savez peut-être ce qui en est, et si vous le savez, j'espère que vous me le direz. Voilà une bien longue lettre, madame, mais puisque vous m'avez permis de vous écrire, j'en ai profité pour vous dire tout, et je compte sur votre amitié. J'ai l'honneur d'être, etc. Paris, ce 23 août 1700. Lettre 28, le chevalier Danceny à Cécile Volanges. Et quoi, mademoiselle, vous refusez toujours de me répondre. Rien ne peut vous fléchir. Et chaque jour emporte avec lui l'espoir qu'il avait amené. Quelle est donc cette amitié que vous consentez qui subsiste entre nous, si elle n'est même pas assez puissante pour vous rendre sensible à ma peine? Si elle vous laisse froide et tranquille, tandis que j'éprouve les tourments d'un feu que je ne puis éteindre. Si loin de vous inspirer de la confiance, elle ne suffit même pas à faire naître votre pitié. Quoi? Votre ami souffre, et vous ne faites rien pour le secourir. Il ne vous demande qu'un mot, et vous le lui refusez. Et vous voulez qu'il se contente d'un sentiment si faible, dont vous craignez encore de lui réitérer les assurances. Vous ne voudriez pas être ingrate, disiez-vous hier. Ah, croyez-moi, madame, vouloir payer de l'amour avec de l'amitié, ce n'est pas craindre l'ingratitude, c'est redouter seulement d'en avoir l'air. Cependant, je n'ose plus vous entretenir d'un sentiment qui ne peut que vous être à charge s'il ne vous intéresse pas. Il faut au moins le renfermer en moi-même, en attendant que j'apprenne à le vaincre. Je sens combien ce travail sera pénible. Je ne me dissimule pas que j'aurai besoin de toutes mes forces. Je tenterai tous les moyens. Il en est un qui coûtera le plus à mon cœur. Ce sera de me répéter souvent que le vôtre est insensible. J'essaierai même de vous voir moins, et déjà je m'occupe d'en trouver un prétexte plausible. Quoi? Je perdrai la douce habitude de vous voir chaque jour? Ah, du moins je ne cesserai jamais de la regretter. Un malheur éternel sera le prix de l'amour le plus tendre, et vous l'aurez voulu, et ce sera votre ouvrage. Jamais, je le sens, je ne retrouverai le bonheur que je perds aujourd'hui. Vous seule étiez faite pour mon cœur. Avec quel plaisir je ferai le serment de ne vivre que pour vous, mais vous ne voulez pas le recevoir. Votre silence m'apprend assez que votre cœur ne vous dit rien pour moi. Il est à la fois la preuve la plus sûre de votre indifférence et la manière la plus cruelle de me l'annoncer. Adieu, mademoiselle. Je n'ose plus me flatter d'une réponse. L'amour l'eût écrite avec empressement, l'amitié avec plaisir, la pitié même avec complaisance. Mais la pitié, l'amitié et l'amour sont également étrangers à votre cœur. Paris, ce 23 août 1700. Lettre 29, Cécile Volanges à Sophie Carnet. Je te le disais bien, Sophie, qu'il y avait des cas où on pouvait écrire. Et je t'assure que je me reproche bien d'avoir suivi ton avis, qui nous a tant fait de peine au chevalier Danceny et à moi. La preuve que j'avais raison, c'est que madame de Merteuil, qui est une femme qui sûrement le sait bien, a fini par penser comme moi. Je lui ai tout avoué. Elle m'a bien dit d'abord comme toi. Mais quand je lui ai eu tout expliqué, elle est convenue que c'était bien différent. Elle exige seulement que je lui fasse voir toutes mes lettres et toutes celles du chevalier Danceny, afin d'être sûre que je ne dirai que ce qu'il faudra. Ainsi, à présent, me voilà tranquille. Mon Dieu, que je l'aime, madame de Merteuil. Elle est si bonne, et c'est une femme bien respectable. Ainsi, il n'y a rien à dire. Comme je m'en vais écrire à monsieur Danceny, et comme il va être content. Il le sera encore plus qu'il ne croit, car jusqu'ici, je ne lui parlais que de mon amitié, et lui voulait toujours que je dise mon amour. Je crois que c'était bien la même chose, mais enfin je n'osais pas, et il tenait à cela. Je l'ai dit à madame de Merteuil, elle m'a dit que j'avais eu raison, et qu'il ne fallait convenir d'avoir de l'amour que quand on ne pouvait plus s'en empêcher. Or je suis bien sûre que je ne pourrais pas m'en empêcher plus longtemps. Après tout, c'est la même chose, et cela lui plaira davantage. Madame de Merteuil m'a dit aussi qu'elle me prêterait des livres qui parlaient de tout cela, et qui m'apprendraient à bien me conduire, et aussi à mieux écrire que je ne fais. Car, vois-tu, elle me dit tous mes défauts, ce qui est une preuve qu'elle m'aime bien. Elle m'a recommandé seulement de ne rien dire à maman de ces livres-là, parce que ça aurait l'air de trouver qu'elle a trop négligé mon éducation, et ça pourrait la fâcher. Oh, je ne lui en dirai rien. C'est pourtant bien extraordinaire qu'une femme qui ne m'est presque pas parente prenne plus de soin de moi que ma mère. C'est bien heureux pour moi de l'avoir connue. Elle a demandé aussi à maman de me mener après-demain à l'opéra, dans sa loge. Elle m'a dit que nous y serions toutes seules et nous causerons tout le temps, sans craindre qu'on nous entende. J'aime bien mieux cela que l'opéra. Nous causerons aussi de mon mariage, car elle m'a dit que c'était bien vrai que j'allais me marier. Mais nous n'avons pas pu en dire davantage. Par exemple, n'est-ce pas encore bien étonnant que maman ne m'en dise rien du tout? Adieu, ma Sophie. Je m'en vais écrire au chevalier Danceny. Oh, je suis bien contente. De ce 24 août 1700. Lettre 30. Cécile Volange au chevalier Danceny. Enfin, monsieur, je consens à vous écrire, à vous assurer de mon amitié, de mon amour, puisque sans cela vous seriez malheureux. Vous dites que je n'ai pas bon cœur. Je vous assure bien que vous vous trompez, et j'espère qu'à présent vous n'en doutez plus. Si vous avez du chagrin de ce que je ne vous écrivais pas, croyez-vous que ça ne me faisait pas de la peine aussi? Mais c'est que pour toute chose au monde, je ne voudrais pas faire quelque chose qui fût mal, et même je ne serais sûrement pas convenue de mon amour si j'avais pu m'en empêcher. Mais votre tristesse me faisait trop de peine. J'espère qu'à présent vous n'en aurez plus, et que nous allons être bien heureux. Je compte avoir le plaisir de vous voir ce soir, et que vous viendrez de bonne heure. Ce ne sera jamais aussitôt que je le désire. Maman soupe chez elle, et je crois qu'elle vous proposera d'y rester. J'espère que vous ne serez pas engagée comme avant-hier. C'était donc bien agréable, le souper où vous alliez, car vous y avez été de bien bonne heure. Mais enfin, ne parlons pas de ça. À présent, que vous savez que je vous aime, j'espère que vous resterez avec moi le plus que vous pourrez. Car je ne suis contente que lorsque je suis avec vous, et je voudrais bien que vous fussiez tout de même. Je suis bien fâchée que vous êtes encore triste à présent, mais ce n'est pas ma faute. Je demanderai à jouer de la harpe aussitôt que vous serez arrivée, afin que vous ayez ma lettre tout de suite. Je ne peux mieux faire. Adieu, monsieur. Je vous aime bien, de tout mon cœur. Plus je vous le dis, plus je suis contente. J'espère que vous le serez aussi. De ce 24 août 1700. Lettre 31, le chevalier Danceny à Cécile Volange. Oui, sans doute, nous serons heureux. Mon bonheur est bien sûr, puisque je suis aimée de vous. Le vôtre ne finira jamais, s'il doit durer autant que l'amour que vous m'avez inspiré. Quoi, vous m'aimez? Vous ne craignez plus de m'assurer de votre amour? Plus vous me le dites, et plus vous êtes contente. Après avoir lu ce charmant « Je vous aime », écrit de votre main, j'ai entendu votre belle bouche m'en répéter l'aveu. J'ai vu se fixer sur moi ces yeux charmants, qu'embellissait encore l'expression de la tendresse. J'ai reçu vos serments de vivre toujours pour moi. Ah, recevez le mien de consacrer ma vie entière à votre bonheur. Recevez-le, et soyez sûr que je ne le trahirai pas. Quelle heureuse journée nous avons passée hier. Ah, pourquoi Madame de Merteuil n'a-t-elle pas tous les jours des secrets à dire à votre maman? Et pourquoi faut-il que l'idée de la contrainte qui nous attend vienne se mêler aux souvenirs délicieux qui m'occupent? Pourquoi ne puis-je tenir sans cesse cette jolie main qui m'a écrit « Je vous aime », la couvrir de baisers, et me venger ainsi du refus que vous m'avez fait d'une faveur plus grande? Dites-moi, ma Cécile, quand votre maman a été rentrée, quand nous avons été forcés par sa présence de n'avoir plus l'un pour l'autre que des regards indifférents, quand vous ne pouviez plus me consoler par l'assurance de votre amour, du refus que vous faisiez de m'en donner des preuves, n'avez-vous donc senti aucun regret? Ne vous êtes-vous pas dit « Un baiser l'eût rendu plus heureux, et c'est moi qui lui ai ravi ce bonheur. Promettez-moi, mon aimable ami, qu'à la première occasion vous serez moins sévère. À l'aide de cette promesse, je trouverai du courage pour supporter les contrariétés que les circonstances nous préparent. Et les privations cruelles seront au moins adoucies par la certitude que vous en partagez le regret. Adieu, ma charmante Cécile. Voici l'heure où je dois me rendre chez vous. Il me serait impossible de vous quitter si ce n'était pour aller vous revoir. Adieu, vous que j'aime tant, vous que j'aimerai toujours davantage. » De ce 25 août 1700. Lettre 32, Madame de Volange à la présidente de Tourvel. Vous voulez donc, madame, que je croie à la vertu de monsieur de Valmont? J'avoue que je ne puis m'y résoudre, et que j'aurais autant de peine à le juger honnête, d'après le seul fait que vous me racontez, qu'à croire vicieux un homme de bien reconnu, dont j'apprendrais une faute. L'humanité n'est parfaite dans aucun genre, pas plus dans le mal que dans le bien. Le scélérat a ses vertus, comme l'honnête homme a ses faiblesses. Cette vérité me paraît d'autant plus nécessaire à croire que c'est d'elle que dérive la nécessité de l'indulgence pour les méchants comme pour les bons, et qu'elle préserve ceux-ci de l'orgueil et sauve les autres du découragement. Vous trouverez sans doute que je pratique bien mal, dans ce moment, cette indulgence que je prêche. Mais je ne vois plus en elle qu'une faiblesse dangereuse, quand elle nous mène à traiter de même le vicieux et l'homme de bien. Je ne me permettrai point de scruter les motifs de l'action de M. de Valmont. Je veux croire qu'ils sont louables comme elle. Mais en a-t-il moins passé sa vie à porter dans les familles le trouble, le déshonneur et le scandale? Écoutez, si vous voulez, la voix du malheureux qui l'a secouru, mais qu'elle ne vous empêche pas d'entendre les cris de 100 victimes qu'il a immolées. Quand il ne serait, comme vous le dites, qu'un exemple du danger des liaisons, en serait-il moins lui-même une liaison dangereuse? Vous le supposez susceptible d'un retour heureux? Allons plus loin. Supposons ce miracle arrivé. Ne resterait-il pas contre lui l'opinion publique, et ne suffit-elle pas pour régler votre conduite? Dieu seul peut absoudre au moment du repentir. Il lit dans les cœurs. Mais les hommes ne peuvent juger les pensées que par les actions, et nul d'entre eux, après avoir perdu l'estime des autres, n'a droit de se plaindre de la méfiance nécessaire qui rend cette perte si difficile à réparer. Songez surtout, ma jeune amie, que quelquefois il suffit, pour perdre cette estime, d'avoir l'air d'y attacher trop peu de prix, et ne taxez pas cette sévérité d'injustice, car, outre qu'on est fondé à croire qu'on ne renonce pas à ce bien précieux quand on a droit d'y prétendre, celui-là est en effet plus près de mal faire, qui n'est plus contenu par ce frein puissant. Tel serait cependant l'aspect sous lequel vous montrerez une liaison intime avec Monsieur de Valmont, quelque innocente qu'elle pût être. Effrayée de la chaleur avec laquelle vous le défendez, je me hâte de prévenir les objections que je prévois. Vous me citerez Madame de Merteuil, à qui on a pardonné cette liaison. Vous me demanderez pourquoi je le reçois chez moi. Vous me direz que, loin d'être rejeté par les gens honnêtes, il est admis, recherché même, dans ce qu'on appelle la bonne compagnie. Je peux, je crois, répondre à tout. D'abord, Madame de Merteuil, en effet très estimable, n'a peut-être d'autre défaut que trop de confiance en ses forces. C'est un guide adroit, qui se plaît à conduire un char entre les rochers et les précipices, et que le succès seul justifie. Il est juste de la louer. Il serait imprudent de la suivre. Elle-même en convient et s'en accuse. À mesure qu'elle a vu davantage, ses principes sont devenus plus sévères, et je ne crains pas de vous assurer qu'elle penserait comme moi. Quant à ce qui me regarde, je ne me justifierai pas plus que les autres. Sans doute. Je reçois Monsieur de Valmont et il est reçu partout. C'est une inconséquence de plus, à ajouter à 1000 autres qui gouvernent la société. Vous savez, comme moi, qu'on passe sa vie à les remarquer, à s'en plaindre et à s'y livrer. Monsieur de Valmont, avec un beau nom, une grande fortune, beaucoup de qualités aimables, a reconnu de bonne heure que pour avoir l'empire dans la société, il suffisait de manier, avec une égale adresse, la louange et le ridicule. Nul ne possède comme lui ce double talent. Il séduit avec l'un et se fait craindre avec l'autre. On ne l'estime pas, mais on le flatte. Telle est son existence au milieu d'un monde qui, plus prudent que courageux, aime mieux le ménager que le combattre. Mais ni Madame de Merteuil elle-même, ni aucune autre femme, n'oserait sans doute aller s'enfermer à la campagne presque en tête-à-tête avec un tel homme. Il était réservé à la plus sage, à la plus modeste d'entre elles, de donner l'exemple de cette inconséquence. Pardonnez-moi ce mot, il échappe à l'amitié. Ma belle amie, votre honnêteté même vous trahit par la sécurité qu'elle vous inspire. Songez donc que vous aurez pour juge, d'une part, des gens frivoles, qui ne croiront pas à une vertu dont ils ne trouvent pas le modèle chez eux, et de l'autre, des méchants qui feindront de n'y pas croire pour vous punir de l'avoir eue. Considérez que vous faites, dans ce moment, ce que quelques hommes n'oseraient pas risquer. En effet, parmi les jeunes gens, dont Monsieur de Valmont ne s'est que trop rendu l'oracle, je vois les plus sages craindre de paraître liés trop intimement avec lui. Et vous, vous ne le craignez pas? Ah, revenez, revenez, je vous en conjure. Si mes raisons ne suffisent pas pour vous persuader, cédez à mon amitié. C'est elle qui me fait renouveler ses instances, c'est à elle à les justifier. Vous la trouvez sévère, et je désire qu'elle soit inutile. Mais j'aime mieux que vous ayez à vous plaindre de sa sollicitude que de sa négligence. De ce 24 août 1700. Lettre 33. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Dès que vous craignez de réussir, mon cher vicomte, dès que votre projet est de fournir des armes contre vous, et que vous désirez moins de vaincre que de combattre, je n'ai plus rien à dire. Votre conduite est un chef-d'œuvre de prudence. Elle en serait un de sottise dans la supposition contraire, et pour vous parler vrai, je crains que vous ne vous fassiez illusion. Ce que je vous reproche n'est pas de n'avoir point profité du moment. D'une part, je ne vois pas clairement qu'il fût venu. De l'autre, je sais assez, quoi qu'on en dise, qu'une occasion manquée se retrouve, tandis qu'on ne revient jamais d'une démarche précipitée. Mais la véritable école est de vous être laissé aller à écrire. Je vous défie à présent de prévoir où ceci peut vous mener. Par hasard, espérez-vous prouver à cette femme qu'elle doit se rendre? Il me semble que ce ne peut être là qu'une vérité de sentiment, et non de démonstration, et que pour la faire recevoir, il s'agit d'attendrir, non de raisonner. Mais à quoi vous servirez d'attendrir par lettre, puisque vous ne seriez pas là pour en profiter? Quand vos belles phrases produiraient l'ivresse de l'amour, vous flattez-vous qu'elles soient assez longues pour que la réflexion n'ait pas le temps d'en empêcher l'aveu? Songez donc à celui qu'il faut pour écrire une lettre, à celui qui se passe avant qu'on la remette. Et voyez si, surtout une femme à principe, comme votre dévote, peut vouloir si longtemps ce qu'elle tâche de ne vouloir jamais. Cette marche peut réussir avec des enfants, qui, quand ils écrivent « Je vous aime », ne savent pas qu'ils disent « Je me rends ». Mais la vertu raisonneuse de Madame de Tourvel me paraît fort bien connaître la valeur des termes. Aussi, malgré l'avantage que vous aviez pris sur elle dans votre conversation, elle vous bat dans sa lettre. Et puis savez-vous ce qui arrive? Par cela seul qu'on dispute, on ne veut pas céder. À force de chercher de bonnes raisons, on en trouve, on les dit. Et après on y tient. Non pas tant parce qu'elles sont bonnes que pour ne pas se démentir. De plus, une remarque que je m'étonne que vous n'ayez pas faite, c'est qu'il n'y a rien de si difficile en amour que d'écrire ce qu'on ne sent pas. Je dis écrire d'une façon vraisemblable. Ce n'est pas qu'on ne se serve des mêmes mots, mais on ne les arrange pas de même. Ou plutôt, on les arrange, et cela suffit. Relisez votre lettre. Il y règne un ordre qui vous décèle à chaque phrase. Je veux croire que votre présidente est assez peu formée pour ne s'en pas apercevoir. Mais qu'importe. L'effet n'en est pas moins manqué. C'est le défaut des romans. L'auteur se bat les flancs pour s'échauffer, et le lecteur reste froid. Héloïse est le seul qu'on en puisse accepter. Et malgré le talent de l'auteur, cette observation m'a toujours fait croire que le fond en était vrai. Il n'en est pas de même en parlant. L'habitude de travailler son organe y donne de la sensibilité. La facilité des larmes y ajoute encore. L'expression du désir se confond dans les yeux avec celle de la tendresse. Enfin, le discours moins suivi amène plus aisément cet air de trouble et de désordre qui est la véritable éloquence de l'amour. Et surtout, la présence de l'objet aimé empêche la réflexion et nous fait désirer d'être vaincus. Croyez-moi, vicomte, on vous demande de ne plus écrire. Profitez-en pour réparer votre faute et attendez l'occasion de parler. Savez-vous que cette femme a plus de force que je ne croyais? Sa défense est bonne, et sans la longueur de sa lettre et le prétexte qu'elle vous donne pour rentrer en matière dans sa phrase de reconnaissance, elle ne se serait pas du tout trahie. Ce qui me paraît encore devoir vous rassurer sur le succès, c'est qu'elle use trop de force à la fois. Je prévois qu'elle les épuisera pour la défense du mot, et qu'il ne lui en restera plus pour celle de la chose. Je vous renvoie vos deux lettres, et si vous êtes prudent, ce seront les dernières jusqu'après l'heureux moment. S'il était moins tard, je vous parlerai de la petite Volange, qui avance assez vite, et dont je suis fort contente. Je crois que j'aurai fini avant vous, et vous devez en être bien honteux. Adieu pour aujourd'hui. De ce 24 août 1700. Lettre 34. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Vous parlez à merveille, ma belle amie, mais pourquoi vous tant fatiguer à prouver ce que personne n'ignore? Pour aller vite en amour, il vaut mieux parler qu'écrire. Voilà, je crois, toute votre lettre. Eh mais, ce sont les plus simples éléments de l'art de séduire. Je remarquerai seulement que vous ne faites qu'une exception à ce principe, et qu'il y en a deux. Aux enfants qui suivent cette marche par timidité et se livrent par ignorance, il faut joindre les femmes beaux esprits, qui s'y laissent engager par amour-propre et que la vanité conduit dans le piège. Par exemple, je suis bien sûr que la comtesse de B, qui répondit sans difficulté à ma première lettre, n'avait pas alors plus d'amour pour moi que moi pour elle, et qu'elle ne vit que l'occasion de traiter un sujet qui devait lui faire honneur. Quoi qu'il en soit, un avocat vous dirait que le principe ne s'applique pas à la question. En effet, vous supposez que j'ai le choix entre écrire et parler, ce qui n'est pas. Depuis l'affaire du 19, mon inhumaine, qui se tient sur la défense, a mis à éviter les rencontres une adresse qui a déconcerté la mienne. C'est au point que, si cela continue, elle me forcera à m'occuper sérieusement des moyens de reprendre cet avantage, car, assurément, je ne veux être vaincu par elle en aucun genre. Mes lettres mêmes sont le sujet d'une petite guerre. Non contente de n'y pas répondre, elle refuse de les recevoir. Il faut pour chacune une ruse nouvelle et qui ne réussit pas toujours. Vous vous rappelez par quel moyen simple j'avais remis la première. La seconde n'offrit pas plus de difficultés. Elle m'avait demandé de lui rendre sa lettre. Je lui donnai la mienne en place, sans qu'elle eût le moindre soupçon. Mais, soit dépit d'avoir été attrapée, soit caprice, ou enfin soit vertu, car elle me forcera d'y croire, elle refusa obstinément la troisième. J'espère pourtant que l'embarras où a pensé la mettre la suite de ce refus la corrigera pour l'avenir. Je ne fus pas très étonnée qu'elle ne voulût pas recevoir cette lettre que je lui offrais tout simplement. C'eût été déjà accordé quelque chose, et je m'attends à une plus longue défense. Après cette tentative, qui n'était qu'un essai fait en passant, je mis une enveloppe à ma lettre, et prenant le moment de la toilette, où Madame de Rosemonde et la femme de chambre étaient présentes, je la lui envoyai par mon chasseur, avec ordre de lui dire que c'était le papier qu'elle m'avait demandé. J'avais bien deviné qu'elle craindrait l'explication scandaleuse que nécessiterait un refus. En effet, elle prit la lettre, et mon ambassadeur, qui avait ordre d'observer sa figure et qui ne voit pas mal, n'aperçut qu'une légère rougeur et plus d'embarras que de colère. Je me félicitais donc, bien sûr, ou qu'elle garderait cette lettre, ou que, si elle voulait me la rendre, il faudrait qu'elle se trouvât seule avec moi, ce qui me donnerait une occasion de lui parler. Environ une heure après, un de ces gens entre dans ma chambre et me remet de la part de sa maîtresse un paquet d'une autre forme que le mien et sur l'enveloppe duquel je reconnais l'écriture tant désirée. J'ouvre avec précipitation. C'était ma lettre elle-même, non décachetée et pliée seulement en deux. Je soupçonne que la crainte que je ne fusse moins scrupuleux qu'elle sur le scandale lui a fait employer cette ruse diabolique. Vous me connaissez. Je n'ai pas besoin de vous peindre ma fureur. Il fallut pourtant reprendre son sang-froid et chercher de nouveaux moyens. Voici le seul que je trouvai. On va d'ici tous les matins chercher les lettres à la poste, qui est à environ 3/4 de lieue. On se sert pour cet objet d'une boîte couverte à peu près comme un tronc, dont le maître de poste a une clé et Madame de Rosemonde l'autre. Chacun y met ses lettres dans la journée, quand bon lui semble, on les porte le soir à la poste, et le matin on va chercher celles qui sont arrivées. Tous les gens, étrangers ou autres, font ce service également. Ce n'était pas le tour de mon domestique, mais il se chargea d'y aller, sous le prétexte qu'il avait affaire de ce côté. Cependant j'écrivis ma lettre. Je déguisai mon écriture pour l'adresse, et je contrefis assez bien sur l'enveloppe le timbre de Dijon. Je choisis cette ville parce que je trouvais plus gaie, puisque je demandais les mêmes droits que le mari, d'écrire aussi du même lieu. Et aussi parce que ma belle avait parlé toute la journée du désir qu'elle avait de recevoir des lettres de Dijon. Il me parut juste de lui procurer ce plaisir. Ces précautions une fois prises, il était facile de faire joindre cette lettre aux autres. Je gagnais encore à cet expédient d'être témoin de la réception, car l'usage est ici de se rassembler pour déjeuner et d'attendre l'arrivée des lettres avant de se séparer. Enfin, elles arrivèrent. Madame de Rosemonde ouvrit la boîte. « De Dijon, » dit-elle en donnant la lettre à Madame de Tourvel. « Ce n'est pas l'écriture de mon mari, » reprit celle-ci d'une voix inquiète en rompant le cachet avec vivacité. Le premier coup d'œil l'instruisit. Et il se fit une telle révolution sur sa figure que Madame de Rosemonde s'en aperçut et lui dit « Qu'avez-vous ? » Je m'approchai aussi en disant « Cette lettre est donc bien terrible ?» La timide dévote n'osait lever les yeux, ne disait mot, et pour sauver son embarras, feignait de parcourir l'épître, qu'elle n'était guère en état de lire. Je jouissais de son trouble, et n'étant pas fâché de la pousser un peu, « Votre air plus tranquille, ajoutai-je, fait espérer que cette lettre vous a causé plus d'étonnement que de douleur. » La colère alors l'inspira mieux que n'eût pu faire la prudence. « Elle contient, répondit-elle, des choses qui m'offensent et que je suis étonnée qu'on ait osé m'écrire. » « Et qui donc ? » interrompit Madame de Rosemonde. « Elle n'est pas signée, répondit la belle courroucée. « Mais la lettre et son auteur m'inspirent un égal mépris. On m'obligera de ne plus m'en parler. » En disant ces mots, elle déchira l'audacieuse missive, en mit les morceaux dans sa poche, se leva et sortit. Malgré cette colère, elle n'en a pas moins eu ma lettre, et je m'en remets bien à sa curiosité du soin de l'avoir lue en entier. Le détail de la journée me mènerait trop loin. Je joins à ce récit le brouillon de mes deux lettres. Vous serez aussi instruite que moi. Si vous voulez être au courant de ma correspondance, il faut vous accoutumer à déchiffrer mes minutes, car pour rien au monde, je ne dévorerai l'ennui de les recopier. Adieu, ma belle amie. De ce 25 août 1700 Lettre 35, le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Il faut vous obéir, madame. Il faut vous prouver qu'au milieu des torts que vous vous plaisez à me croire, il me reste au moins assez de délicatesse pour ne pas me permettre un reproche, et assez de courage pour m'imposer les plus douloureux sacrifices. Vous m'ordonnez le silence et l'oubli. Eh bien, je forcerai mon amour à se taire, et j'oublierai, s'il est possible, la façon cruelle dont vous l'avez accueilli. Sans doute le désir de vous plaire n'en donnait pas le droit, et j'avoue encore que le besoin que j'avais de votre indulgence n'était pas un titre pour l'obtenir. Mais vous regardez mon amour comme un outrage. Vous oubliez que si ce pouvait être un tort, vous en seriez à la fois et la cause et l'excuse. Vous oubliez aussi qu'accoutumé à vous offrir mon âme, lors même que cette confiance pouvait me nuire, il ne m'était plus possible de vous cacher les sentiments dont je suis pénétrée. Et ce qui fut l'ouvrage de ma bonne foi, vous le regardez comme le fruit de l'audace. Pour prix de l'amour le plus tendre, le plus respectueux, le plus vrai, vous me rejetez loin de vous. Vous me parlez enfin de votre haine. Quel autre ne se plaindrait pas d'être traité ainsi? Moi seul, je me soumets. Je souffre de tout et ne murmure point. Vous frappez et j'adore. L'inconcevable empire que vous avez sur moi vous rend maîtresse absolue de mes sentiments. Et si mon amour seul vous résiste, si vous ne pouvez le détruire, c'est qu'il est votre ouvrage et non pas le mien. Je ne demande point un retour dont jamais je ne me suis flattée. Je n'attends pas même cette pitié que l'intérêt que vous m'aviez témoigné quelquefois pouvait me faire espérer. Mais je crois, je l'avoue, pouvoir réclamer votre justice. Vous m'apprenez, madame, qu'on a cherché à me nuire dans votre esprit. Si vous en eussiez cru les conseils de vos amis, vous ne m'eussiez même pas laissé approcher de vous. Ce sont vos termes. Quels sont donc ces amis officieux? Sans doute ces gens si sévères et d'une vertu si rigide consentent à être nommés. Sans doute ils ne voudraient pas se couvrir d'une obscurité qui les confondrait avec de vils calomniateurs. Et je n'ignorerai ni leur nom ni leurs reproches. Songez, madame, que j'ai le droit de savoir l'un et l'autre, puisque vous me jugez d'après eux. On ne condamne point un coupable sans lui dire son crime, sans lui nommer ses accusateurs. Je ne demande point d'autre grâce, et je m'engage d'avance à me justifier, à les forcer de se dédire. Si j'ai trop méprisé, peut-être, les vaines clameurs d'un public dont je fais peu de cas, il n'en est pas ainsi de votre estime. Et quand je consacre ma vie à la mériter, je ne me la laisserai pas ravir impunément. Elle me devient d'autant plus précieuse que je lui devrai sans doute cette demande que vous craignez de me faire, et qui me donnerait, dites-vous, des droits à votre reconnaissance. Ah, loin d'en exiger, je croirai vous en devoir, si vous me procurez l'occasion de vous être agréable. Commencez donc à me rendre plus de justice, en ne me laissant plus ignorer ce que vous désirez de moi. Si je pouvais le deviner, je vous éviterais la peine de le dire. Au plaisir de vous voir, ajoutez le bonheur de vous servir, et je me louerai de votre indulgence. Qui peut donc vous arrêter? Ce n'est pas, je l'espère, la crainte d'un refus. Je sens que je ne pourrai vous la pardonner. Ce n'en est pas un que de ne pas vous rendre votre lettre. Je désire plus que vous qu'elle ne me soit plus nécessaire. Mais accoutumée à vous croire une âme si douce, ce n'est que dans cette lettre que je puis vous trouver telle que vous voulez paraître. Quand je forme le vœu de vous rendre sensible, j'y vois que plutôt que d'y consentir, vous fuiriez à 100 lieues de moi. Quand tout en vous augmente et justifie mon amour, c'est encore elle qui me répète que mon amour vous outrage. Et lorsqu'en vous voyant, cet amour me semble le bien suprême, j'ai besoin de vous lire, pour sentir que ce n'est qu'un affreux tourment. Vous concevez à présent que mon plus grand bonheur serait de pouvoir vous rendre cette lettre fatale. Me la demander encore serait m'autoriser à ne plus croire ce qu'elle contient. Vous ne doutez pas, j'espère, de mon empressement à vous la remettre. De ce 12 août 1700. Lettre 36. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Timbré de Dijon. Votre sévérité augmente chaque jour, madame, et si je l'ose dire, vous semblez craindre moins d'être injuste que d'être indulgente. Après m'avoir condamnée sans m'entendre, vous avez dû sentir, en effet, qu'il vous serait plus facile de ne pas lire mes raisons que d'y répondre. Vous refusez mes lettres avec obstination. Vous me les renvoyez avec mépris. Vous me forcez enfin de recourir à la ruse, dans le moment même où mon unique but et de vous convaincre de ma bonne foi. La nécessité où vous m'avez mis de me défendre suffira sans doute pour en excuser les moyens. Convaincu d'ailleurs par la sincérité de mes sentiments, que pour les justifier à vos yeux, il me suffit de vous les faire bien connaître, j'ai cru pouvoir me permettre ce léger détour. J'ose croire aussi que vous me le pardonnerez, et que vous serez peu surprise que l'amour soit plus ingénieux à se produire que l'indifférence à l'écarter. Permettez donc, madame, que mon cœur se dévoile entièrement à vous. Il vous appartient. Il est juste que vous le connaissiez. J'étais bien éloignée, en arrivant chez madame de Rosemonde, de prévoir le sort qui m'y attendait. J'ignorais que vous y fussiez, et j'ajouterai avec la sincérité qui me caractérise que, quand je l'aurais su, ma sécurité n'en eût point été troublée. Non que je ne rendisse à votre beauté la justice qu'on ne peut lui refuser, mais accoutumée à n'éprouver que des désirs, à ne me livrer qu'à ceux que l'espoir encourageait, je ne connaissais pas les tourments de l'amour. Vous fûtes témoin des instances que me fit madame de Rosemonde pour m'arrêter quelque temps. J'avais déjà passé une journée avec vous. Cependant, je ne me rendis, ou au moins je ne crus me rendre, qu'au plaisir si naturel et si légitime de témoigner des égards à une parente respectable. Le genre de vie qu'on menait ici différait beaucoup, sans doute, de celui auquel j'étais accoutumée. Il ne m'en coûta rien de m'y conformer, et sans chercher à pénétrer la cause du changement qui s'opérait en moi, je l'attribuais uniquement encore à cette facilité de caractère dont je crois vous avoir déjà parlé. Malheureusement, et pourquoi faut-il que ce soit un malheur? En vous connaissant mieux, je reconnus bientôt que cette figure enchanteresse qui seul m'avait frappé, était le moindre de vos avantages. Votre âme céleste étonna, séduisit la mienne. J'admirais la beauté, j'adorais la vertu. sans prétendre à vous obtenir, je m'occupais de vous mériter. En réclamant votre indulgence pour le passé, j'ambitionnais votre suffrage pour l'avenir. Je le cherchais dans vos discours, je l'épiais dans vos regards, dans ces regards d'où partait un poison d'autant plus dangereux qu'il était répandu sans dessein et reçu sans méfiance. Alors je connus l'amour, mais que j'étais loin de m'en plaindre. Résolu de l'ensevelir dans un éternel silence, je me livrais sans crainte comme sans réserve à ce sentiment délicieux. Chaque jour augmentait son empire. Bientôt le plaisir de vous voir se changea en besoin. Vous absentiez-vous un moment, mon cœur se serrait de tristesse. Au bruit qui m'annonçait votre retour, il palpitait de joie. Je n'existais plus que par vous et pour vous. Cependant, c'est vous-même que j'adjure. Jamais dans la gaieté des folâtres jeux ou dans l'intérêt d'une conversation sérieuse m'échappa-t-il un mot qui pût trahir le secret de mon cœur. Enfin, un jour arriva où devait commencer mon infortune, et par une inconcevable fatalité, une action honnête en devint le signal. Oui, madame, c'est au milieu des malheureux que j'avais secouru, que vous livrant à cette sensibilité précieuse qui embellit la beauté même et ajoute du prix à la vertu, vous achevâtes d'égarer un cœur que déjà trop d'amour enivrait. Vous vous rappelez peut-être quelle préoccupation s'empara de moi au retour. Hélas, je cherchais à combattre un penchant que je sentais devenir plus fort que moi. C'est après avoir épuisé mes forces dans ce combat inégal qu'un hasard que je n'avais pu prévoir me fit trouver seul avec vous. Là, je succombais, je l'avoue. Mon cœur trop plein ne put retenir ses discours ni ses larmes. Mais est-ce donc un crime? Et si c'en est un, n'est-il pas assez puni par les tourments affreux auxquels je suis livrée? Dévoré par un amour sans espoir, j'implore votre pitié et ne trouve que votre haine. Sans autre bonheur que celui de vous voir, mes yeux vous cherchent malgré moi, et je tremble de rencontrer vos regards. Dans l'état cruel où vous m'avez réduit, je passe les jours à déguiser mes peines et les nuits à m'y livrer. Tandis que vous, tranquille et paisible, vous ne connaissez ces tourments que pour les causer et vous en applaudir. Cependant, c'est vous qui vous plaignez, et c'est moi qui m'excuse. Voilà pourtant, madame, voilà le récit fidèle de ce que vous nommez mes torts, et que peut-être il serait plus juste d'appeler mes malheurs. Un amour pur et sincère, un respect qui ne s'est jamais démenti, une soumission parfaite. Tels sont les sentiments que vous m'avez inspirés. Je n'eusse pas craint d'en présenter l'hommage à la divinité même. Ô vous qui êtes son plus bel ouvrage, imitez-la dans son indulgence. Songez à mes peines cruelles. Songez surtout que, placé par vous entre le désespoir et la félicité suprême, le premier mot que vous prononcerez décidera pour jamais de mon sort. De ce 23 août 1700. Lettre 37. La présidente de Tourvel à madame de Volanges. Je me soumets, madame, au conseil que votre amitié me donne. Accoutumée à déférer en tout à vos avis, je le suis à croire qu'ils sont toujours fondés en raison. J'avouerai même que monsieur de Valmont doit être en effet infiniment dangereux, s'il peut à la fois feindre d'être ce qu'il paraît ici et rester tel que vous le dépeignez. Quoi qu'il en soit, puisque vous l'exigez, je l'éloignerai de moi. Au moins j'y ferai mon possible, car souvent les choses qui dans le fond devraient être les plus simples deviennent embarrassantes par la forme. Il me paraît toujours impraticable de faire cette demande à sa tante. Elle deviendrait également désobligeante, et pour elle, et pour lui. Je ne prendrai pas non plus, sans quelque répugnance, le parti de m'éloigner moi-même, car outre les raisons que je vous ai déjà mandées relatives à monsieur de Tourvel, si mon départ contrariait monsieur de Valmont, comme il est possible, n'aurait-il pas la facilité de me suivre à Paris? Et son retour, dont je serai, dont au moins je paraîtrais être l'objet, ne semblerait-il pas plus étrange qu'une rencontre à la campagne, chez une personne qu'on sait être sa parente et mon amie? Il ne me reste donc d'autre ressource que d'obtenir de lui-même qu'il veuille bien s'éloigner. Je sens que cette proposition est difficile à faire. Cependant, comme il me paraît avoir à cœur de me prouver qu'il a en effet plus d'honnêteté qu'on lui en suppose, je ne désespère pas de réussir. Je ne serai pas même fâché de le tenter, et d'avoir une occasion de juger si, comme il le dit souvent, les femmes vraiment honnêtes n'ont jamais eu et n'auront jamais à se plaindre de ses procédés. S'il part, comme je le désire, ce sera en effet par égard pour moi, car je ne peux pas douter qu'il n'ait le projet de passer ici une grande partie de l'automne. S'il refuse ma demande et s'obstine à rester, je serai toujours à temps de partir moi-même, et je vous le promets. Voilà, je crois, madame, tout ce que votre amitié exigeait de moi. Je m'empresse d'y satisfaire, et de vous prouver que malgré la chaleur que j'ai pu mettre à défendre monsieur de Valmont, je n'en suis pas moins disposée, non seulement à écouter, mais même à suivre les conseils de mes amis. J'ai l'honneur d'être, etc., de ce 25 août 1700. Lettre 38, la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Votre énorme paquet m'arrive à l'instant, mon cher vicomte. Si la date en est exacte, j'aurais dû le recevoir 24 heures plus tôt. Quoi qu'il en soit, si je prenais le temps de le lire, je n'aurais plus celui d'y répondre. Je préfère donc de vous en accuser seulement la réception, et nous causerons d'autre chose. Ce n'est pas que j'ai rien à vous dire pour mon compte. L'automne ne laisse à Paris presque point d'homme qui ait figure humaine. Aussi je suis, depuis un mois, d'une sagesse à périr, et tout autre que mon chevalier serait fatigué des preuves de ma constance. Ne pouvant m'occuper, je me distrais avec la petite Volanges, et c'est d'elle que je veux vous parler. Savez-vous que vous avez perdu plus que vous ne croyez à ne pas vous charger de cet enfant? Elle est vraiment délicieuse. Cela n'a ni caractère, ni principe. Jugez combien sa société sera douce et facile. Je ne crois pas qu'elle brille jamais par le sentiment, mais tout annonce en elle les sensations les plus vives. Sans esprit et sans finesse, elle a pourtant une certaine fausseté naturelle, si l'on peut parler ainsi, qui quelquefois m'étonne moi-même, et qui réussira d'autant mieux que sa figure offre l'image de la candeur et de l'ingénuité. Elle est naturellement très caressante, et je m'en amuse quelquefois. Sa petite tête se monte avec une facilité incroyable, et elle est alors d'autant plus plaisante qu'elle ne sait rien, absolument rien, de ce qu'elle désire tant savoir. Il lui en prend des impatiences tout à fait drôles. Elle rit, elle se dépite, elle pleure, et puis elle me prie de l'instruire, avec une bonne foi réellement séduisante. En vérité, je suis presque jalouse de celui à qui ce plaisir est réservé. Je ne sais si je vous ai mandé que depuis 4 ou 5 jours, j'ai l'honneur d'être sa confidente. Vous devinez bien que d'abord j'ai fait la sévère. Mais aussitôt que je me suis aperçue qu'elle croyait m'avoir convaincue par ses mauvaises raisons, j'ai eu l'air de les prendre pour bonnes. Et elle est intimement persuadée qu'elle doit ce succès à son éloquence. Il fallait cette précaution pour ne pas me compromettre. Je lui ai permis d'écrire et de dire « j'aime ». Et le jour même, sans qu'elle s'en doutât, je lui ai ménagé un tête-à-tête avec son Danceny. Mais figurez-vous qu'il est si sot encore qu'il n'en a seulement pas obtenu un baiser. Ce garçon-là fait pourtant de fort jolis vers. Mon Dieu, que ces gens d'esprit sont bêtes! Celui-ci l'est au point qu'il m'en embarrasse. Car enfin pour lui, je ne peux pas le conduire. C'est à présent que vous me seriez bien utile. Vous êtes assez lié avec Danceny pour avoir sa confidence. S'il vous la donnait une fois, nous irions grand train. Dépêchez donc votre présidente, car enfin je ne veux pas que Gercourt s'en sauve. Au reste, j'ai parlé de lui hier à la petite personne, et je le lui ai si bien peint que quand elle serait sa femme depuis 10 ans, elle ne le haïrait pas davantage. Je l'ai pourtant beaucoup prêché sur la fidélité conjugale. Rien n'égale ma sévérité sur ce point. Par là, d'une part, je rétablis auprès d'elle ma réputation de vertu, que trop de condescendance pourrait nuire. De l'autre, j'augmente en elle la haine dont je veux gratifier son mari. Et enfin, j'espère qu'en lui faisant à croire qu'il ne lui est permis de se livrer à l'amour que pendant le peu de temps qu'elle a à rester fille, elle se décidera plus vite à n'en rien perdre. Adieu, vicomte. Je vais me mettre à ma toilette où je lirai votre volume. De ce 27 août 1700. Lettre 39, Cécile Volanges à Sophie Carnet. Je suis triste et inquiète, ma chère Sophie. J'ai pleuré presque toute la nuit. Ce n'est pas que pour le moment je ne sois bien heureuse, mais je prévois que cela ne durera pas. J'ai été hier à l'opéra avec Madame de Merteuil. Nous y avons beaucoup parlé de mon mariage, et je n'en ai rien appris de bon. C'est Monsieur le comte de Gercourt que je dois épouser, et ce doit être au mois d'octobre. Il est riche, il est homme de qualité, il est colonel du régiment de... Jusque-là, tout va fort bien. Mais d'abord, il est vieux. Figure-toi qu'il a au moins 36 ans. Et puis Madame de Merteuil dit qu'il est triste et sévère, et qu'elle craint que je ne sois pas heureuse avec lui. J'ai même bien vu qu'elle en était sûre, et qu'elle ne voulait pas me le dire pour ne pas m'affliger. Elle ne m'a presque entretenue toute la soirée que des devoirs des femmes envers leur mari. Elle convient que Monsieur de Gercourt n'est pas aimable du tout, et elle dit pourtant qu'il faudra que je l'aime. Ne m'a-t-elle pas dit aussi qu'une fois mariée, je ne devais plus aimer le chevalier Danceny? Comme si c'était possible! Oh, je t'assure bien que je l'aimerai toujours. Vois-tu, j'aimerais mieux plutôt ne pas me marier. Que ce Monsieur de Gercourt s'arrange. Je ne l'ai pas été chercher. Il est en Corse à présent, bien loin d'ici. Je voudrais qu'il y restât 10 ans. Si je n'avais pas peur de rentrer au couvent, je dirais bien à maman que je ne veux pas de ce mari-là. Mais ce serait encore pis. Je suis bien embarrassée. Je sens que je n'ai jamais tant aimé Monsieur Danceny qu'à présent. Et quand je songe qu'il ne me reste plus qu'un mois à être comme je suis, les larmes me viennent aux yeux tout de suite. Je n'ai de consolation que dans l'amitié de Madame de Merteuil. Elle a si bon cœur. Elle partage tous mes chagrins comme moi-même. Et puis elle est si aimable que quand je suis avec elle, je n'y songe presque plus. D'ailleurs, elle m'est bien utile, car le peu que je sais, c'est elle qui me l'a appris. Et elle est si bonne que je lui dis tout ce que je pense, sans être honteuse du tout. Quand elle trouve que ce n'est pas bien, elle me gronde quelquefois, mais c'est tout doucement. Et puis je l'embrasse de tout mon cœur, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus fâchée. Au moins celle-là, je peux bien l'aimer tant que je voudrais sans qu'il y ait du mal, et ça me fait bien plaisir. Nous sommes pourtant convenus que je n'aurais pas l'air de l'aimer tant devant le monde, et surtout devant maman, afin qu'elle ne se méfie de rien au sujet du chevalier Danceny. Je t'assure que si je pouvais toujours vivre comme je fais à présent, je crois que je serais bien heureuse. Il n'y a que ce vilain monsieur de Gercourt. Mais je ne veux pas t'en parler davantage, car je redeviendrai triste. Au lieu de cela, je vais écrire au chevalier Danceny. Je ne lui parlerai que de mon amour, et non de mes chagrins, car je ne veux pas l'affliger. Adieu, ma bonne amie. Tu vois bien que tu aurais tort de te plaindre, et que j'ai beau être occupée, comme tu dis, qu'il ne m'en reste pas moins le temps de t'aimer et de t'écrire. De ce 27 août 1700...